ce matin. Et mon thème de ce matin, j'ai intitulé « La présence de Jésus produit le surnaturel ». Surnaturel. Je suis arrivé juste à 9h, prié avec l'équipe d'intercession ce matin, qui prie tous les dimanches à partir de 8h30. Et j'entendais les mots qui correspondaient à ma prédication. C'est comme si que pendant cette demi-heure-là, pendant cette intercession, on voulait ma prédication, les expressions, les surnaturels, la compassion, toutes ces choses-là que vous allez entendre. Ceux qui priaient ce matin, vous allez voir que ça correspondait. J'étais content, heureux, parce que je dis, Seigneur, j'ai préparé quelque chose. Et en même temps, on proclamait des expressions de ma prédication. Alors, vous vous souvenez, il y a juste une semaine, donc on avait Daniel Hermono à Waterloo. Hein, ça va? Vous vous souvenez? Cet homme qui a beaucoup d'expérience, il a 78 ans, on ne dirait pas. Hein, on dirait pas. Et cet homme qui a implanté plusieurs églises ici dans cette région, et c'est lui qui m'a aussi encouragé, parce que je suis quand même plus jeune que lui. J'étais jeune, lui était déjà bien adulte à l'époque. Et il m'a toujours encouragé. Et quand il est venu pour la première fois ici dans cette salle, il m'a dit, Antoine, c'est formidable ce que tu fais. Et il dit, je te transmets le bâton. C'est-à-dire, voilà, comme si il m'avait transmis une mission pour continuer. Implanter des églises, et voilà, c'est ce que nous faisons. On parle d'Arras, attention, parce qu'il y a la pastorale, notre pastorale qui représente ici dans la région, 10 églises, j'ai proclamé implantation de 100 églises. 100. Allô? Alors on m'a dit, ouais, mais Antoine, tu n'as pas 30 ans. Oui, on a lancé 100 églises. D'accord? Si je n'ai pas fini, il y a des jeunes. Au moins, il y a une vision qui va rester là, d'accord, pour pouvoir continuer. Amen, vous êtes d'accord? Il y a des jeunes, souriez un peu là. Voilà, vous aurez déjà les rails. Et sur les rails, on met quoi? Les wagons, hein? La locomotive, le TGV. Et puis ensuite, il faut remplir. D'accord? Donc voilà, il y a pas. Et puis ensuite, peut-être vous les jeunes, vous allez ajouter encore à zéro. Quand vous allez arriver à 100 églises, qu'est-ce que vous allez faire? On va ajouter 100 à zéro. À zéro. Ça va faire quoi? On va attaquer quoi? 1000 églises. Parmi les autres, on n'est pas les meilleurs, on bénit tout le monde. Vous savez, dans une ville, il y a combien de magasins? Différentes marques. On est d'accord? Il y a beaucoup de magasins. Et puis, ces magasins sont là pour répondre aux besoins de la population, pour nourrir la population, d'accord? L'église, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas autant. Hein. À côté de chaque magasin, il devrait y avoir une église, une assemblée, un groupe peut-être. C'est déjà une église, deux ou trois. D'accord? C'est bon? Ça vous va? C'est formidable. Donc, quand on avait Daniel, je vous ai un peu donner le témoignage, comment lui, il m'a encouragé, nous a encouragé, Christian et moi-même, pendant des moments difficiles. Et c'est lui qui nous a téléphoné en disant, « Oui, vous avez un combat maintenant, j'ai entendu, j'aimerais prier pour vous. » Et combien c'est encourageant quand on a des gens qui sont des pères pour nous et qui bénissent ses enfants. Et donc, lui nous a parlé donc beaucoup de la compassion. Vous vous souvenez de la compassion? Quelqu'un qui avait quelques bénédictions, quelques guérisons pendant son ministère. Vous vous souvenez, cette dame, elle a donné un témoignage d'une dame qui avait déjà un trou, voilà, puis condamnée pratiquement par la médecine à la mort. Et cette dame, elle a été guérie. Mais d'autres sont morts. Et souvent, lui-même, il disait, on est devant quelqu'un qui est condamné par la médecine. Et si on n'arrive pas à recevoir une guérison, il y a une frustration. Parce que nous avons, c'est ce qu'il disait, une compassion. Jésus avait beaucoup de compassion. Il usait beaucoup de compassion pour les autres. Il voulait aider tout le monde. Amen. Donc, il voulait nous dire que nous, la même chose. C'est bien les proclamations, c'est formidable. Mais avoir aussi la compassion pour ceux qui sont malades. Avoir la compassion pour ceux qui ont faim. Avoir la compassion pour ceux qui sont malheureux. Avoir la compassion pour ceux qui n'ont pas à manger. Avoir la compassion pour ceux qui n'ont pas le but dans la vie. Allô? Il nous faut avoir un but dans notre vie. Si vous n'avez pas un but clair dans votre but, dans votre vie, c'est comme si vous étiez dans un bus, vous ne connaissez pas la destination, vous rentrez dans un bus et vous ne savez pas du tout quelle est la direction de ce bus. Mais quand on prend un bus, quand on prend un train, quand on prend le tramway, à votre tour, il faut savoir où on va. On est d'accord? Ah ben, avec l'évangile, c'est la même chose. Il faut savoir où on va. Sinon, c'est la question, ça sera toujours question de religion, de dénomination, de sectes, etc. Et moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui compte, c'est avoir Jésus dans ma vie et suivre Jésus. C'est lui. Si vous dites, je suis évangélique, c'est bien. C'est un repère ici sur cette terre. Protestant, d'accord, catholique ou d'autres. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance. L'essentiel dans notre vie, c'est avoir Jésus dans notre vie et suivre Jésus parce que lui, il avance. Et il faut suivre quelqu'un qui avance. Un jour, je me suis retrouvé je me suis arrêté devant une voiture, juste il y avait le croisement, vous comprenez, le feu, le feu tricolore. Et puis, bon, vous savez qu'il faut passer quand il y a le feu, hein, feu vert. Hein. Je me suis arrêté, mais il y avait une voiture juste un petit peu avant, en panne, sur le côté, vous comprenez. Et moi, j'avais l'impression que cette voiture, elle attendait le feu vert. Je me suis arrêté devant cette voiture, sur le côté, comme ça. Voilà, derrière cette voiture, et elle était en panne. Mais en même temps, je pensais, je méditais le culte. C'était un culte très fort, quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Et j'étais dans mon culte, là, et puis quand je me suis arrêté, j'ai dit, j'ai 2-3 secondes, là, tant que le feu rouge passe, j'ai même fermé les yeux. Voilà, mais tout à coup, j'ouvre les yeux, je dis, faut pas que je reste longtemps avec les yeux fermés. Mais je ne regardais pas le feu rouge, vert, etc. Mais j'ai regardé la voiture, vous comprenez? Ça ne passe pas encore. Hein. Je médite, je combats, je chasse les démons là, parce qu'il y en a qui ne sont pas partis pendant le culte. Vous comprenez? C'est le combat. Hein. On est là, engagé. C'est la chrétienne, c'est pas juste avec les pantoufles. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il veut aller plus loin, il veut faire le maximum. C'est pas juste, voilà, on est content, je suis sauvé, mais la compassion, c'est ça, c'est pouvoir aider les autres. Alors moi, j'étais pris dans tout ça. Et puis, je dis, à la voiture, elle passe pas encore, j'ai encore le temps, et puis je médite, je réfléchis. Et puis je suis resté comme ça au moins un quart d'heure, et après j'ai commencé à réaliser que les voitures passaient à côté de moi, et puis passaient. Je dis, mais pourquoi je me... Les autres passent et moi, je suis arrêté. Et là, j'ai réalisé que j'ai suivi une voiture au stationnement et ça n'avançait pas. Allô? Vous avez compris? Je dois répéter. On ne peut pas suivre une voiture au stationnement. Vous voulez suivre une voiture? Parce que c'est celle qui roule. Alors, et puis tout à coup, je me suis rendu compte, j'ai bougé, j'ai oublié mon culte, et j'ai suivi les voitures qui roulaient. Et j'étais content parce que j'avançais. Et la voiture en stationnement, elle est restée là. Alors, si vous voulez avancer dans votre vie, il faut suivre qui ? Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Les années passent tellement vite, mais c'est lui qui suit Jésus. Vivra avec Jésus dans l'éternité. C'est formidable tout ça. Hein? Bon, j'ai déjà dit complètement autre chose, ce que je devais dire. Je vais essayer de... Voilà, donc vous voyez, je voulais justement reprendre cette expression de Daniel Hermano, la compassion. Avoir la compassion, partager les choses. Et je vais prendre juste deux passages dans la parole de Dieu aujourd'hui. Le premier, c'est le premier épître de Jean, chapitre 2, les versets 15, 16 et 17. Alors Fred, c'était prévu que c'est toi qui lis, non ? Théophas, j'aime jamais me retourner comme ça pour lire, donc ça c'est moi.
Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Alors, vous voyez, c'est profond en même temps. Vous voyez, il est question de quoi ? De la convoitise de la chair. De la convoitise des yeux, ce que nous voyons. La chair désire beaucoup de choses qui sont souvent, n'est pas à la gloire de Dieu. Les yeux convoitent aussi des choses. Dans le pire des cas, un monsieur qui convoite une dame qui n'est pas sa femme. Ou la femme, une dame qui convoite un monsieur qui n'est pas son mari. C'est courant dans le monde. Hein. Allô ? La convoitise de la chair. La chair convoite. Et la convoitise, quand elle est consommée, produit les péchés, et les péchés produisent la mort. La mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu, c'est la mort, c'est vivre sans Dieu. Il ne s'agit pas de la mort physique, tout simplement. Donc, il est question de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et aussi l'orgueil de quoi ? L'orgueil de la vie. Il y a tellement d'orgueil autour de nous, et puis, bon, chacun d'entre nous, on peut quand même... constater que quelquefois il y a quelque part l'orgueil qui se réveille en nous. Hein. Ça m'arrive que Christiane m'a déjà dit pendant ces 40 ans que nous sommes ensemble, même 42 ans je pense déjà, elle m'a dit « Ah petite, t'es quand même un homme orgueilleux. » C'est lourd quand elle me claque comme ça. Et moi, l'orgueil c'est de ne pas accepter, j'ai réagi. Et je lui dis, mais tu es aussi orgueilleuse. Ça s'est déjà arrivé, on est humain, c'est comme ça. Hein. Mais tout ça, il faut travailler, on est bien d'accord ? Nous sommes imparfaits. Je vous donne un exemple personnel. Il faut travailler. Nous sommes ici sur cette terre, rien n'est parfait, mais nous tendons vers la perfection. Donc ça se travaille, tout ça, ça se travaille. Et si on ferme les yeux, ah ben, il y a des catastrophes. Vous comprenez ? Il y a tellement de choses qui étaient dans notre vie où il fallait qu'on travaille avec pour vivre 42 ans ensemble. Ben déjà, il fallait balayer l'idée séparation-divorce. Ça ne faisait pas du tout partie de notre conception. Nous avons accepté Jésus et on a décidé de vivre avec Jésus pendant le temps que nous vivrons sur cette terre. Donc, on n'avait jamais le problème de Voilà, bah, si ça ne va pas, bah, je te balance et puis je m'en vais dans l'autre sens. Pas du tout. Donc déjà, ça a été réglé au départ. Et on est toujours là. On est toujours là. Vous voyez, l'orgueil produit des dégâts terribles partout, partout. Et nous devons aussi travailler aussi ce domaine dans notre vie. D'accord ? Mais regardez plus loin, ce qui m'intéresse vraiment, j'aimerais attirer votre attention sur ce verset-là, que si tu peux encore projeter le verset 17, qui nous dit, voilà, le monde passe, la convoitise de la chair passe, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, etc. Tout ça, ça va passer, le monde passe là. Mais le verset 17 dit quoi ? Alors, on va trouver, essayer de trouver 17, c'est là-bas. Or, le monde passe. Tout disparaîtra. Le monde disparaîtra. Le système dans lequel nous vivons, vous comprenez ? Il ne s'agit pas tout simplement ici du globe, le monde, mais du système, l'injustice, etc. Disparaîtra. Or, le monde passe. Le monde disparaîtra. Avec tous ses attraits, mais c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu, demeure éternellement. Éternellement. Alors, si tu veux vivre éternellement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la volonté de Dieu. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu, vivra éternellement avec Jésus. On sera libéré de toutes ces faiblesses, les maladies, l'injustice de ce monde-là. Donc tout ce qui est terrestre disparaîtra, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement. Ça vous va ? Vous êtes heureux ? Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi finalement ? La volonté de Dieu pour l'homme, c'est quoi ? Alors, la volonté de Dieu, pour moi personnellement, c'était quoi ? Avant tout, accepter Jésus-Christ dans ma vie. C'est ça la volonté de Dieu, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous sauver. C'est ça la volonté de Dieu pour l'humanité, c'est que nous puissions accepter Jésus-Christ. Patrice, ce que tu disais tout à l'heure fait partie de la volonté de Dieu. Hein? Accepter Jésus dans notre vie. Qu'est-ce qui va se passer si on n'accepte pas Jésus dans notre vie ? Ben, on reste sous la condamnation, on est d'accord ? Mais Dieu nous aime et il est venu nous chercher. Il nous a invités, Dieu, parce qu'il s'est servi de quelqu'un pour dire, viens mon ami, je t'aime. Voilà, Dieu se sert de toi, de ta bouche. Plusieurs parmi vous, vous avez été à Lille, barbecue, donc pendant 4 jours, et vous avez pu communiquer la parole de Dieu. D'autres pouvaient, d'autres prier. On est bien d'accord, on est ensemble. Et vous avez pu parler, mais attention, chaque parole que vous avez dit, c'était la parole de Dieu. Et nous avons une responsabilité. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas mentir à les gens. On est d'accord ? On ne peut pas juste raconter des histoires qui n'ont pas de fondement. Mais la parole de Dieu, c'est la vie ou la mort. Ah ! Ça va ? C'est bon, on est d'accord là-dessus. On communique la vie ou la mort. Et d'une façon ou d'une autre, Jésus est venu vers toi pour te dire, je vais te sauver. Ah, moi, je suis un grand pécheur, ça m'arrive. Ah, tu sais, Antoine, moi, je suis un grand pécheur. Tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie, mais Dieu ne me pardonnera jamais. Et moi, je lui ai dit, mais Dieu t'aime et Dieu veut te libérer de ton raisonnement personnel qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi, du Satan. C'est lui qui nous ment, c'est lui qui nous culpabilise, C'est lui qui veut nous dire, mais non, tu as fait trop de péchés, tu es perdu, tu n'es pas croyant, tu n'as aucune chance. C'est lui, mais Dieu, amen, je t'aime, je vais te sauver. Je voyais Jésus, mon fils Jésus-Christ, pour que tu sois libéré. Donc, la volonté de Dieu, avant tout pour l'homme, c'est accepter Jésus dans notre vie. Et si quelqu'un est là parmi nous ce matin, qui n'a pas encore vraiment accepté Jésus, ah ben là, tu vas pouvoir régler cette situation pendant ce culte-là. Il ne faut pas partir avant que ça soit réglé, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme si, que, vous savez, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un qui n'assure pas sa voiture, ça roule, mais quand il y a un accident, ben, il a tout perdu. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas. Donc, moi, Christian, quand on se réveille, chaque fois, on est encore là. Seigneur, donne-nous la vie pendant cette journée, mais en même temps, protège-nous. Protège-nous. Quand on prend on voyage quand même pas mal. Pas cette année, mais l'année dernière, on a fait beaucoup de kilomètres en avion, par-ci, par-là, dans le monde entier. Et puis, chaque fois, quand on rentrait dans un avion, qu'est-ce que vous pensez? Seigneur, protège-moi. On ne sait pas ce qui va se passer dans une heure. Hein? On est d'accord? Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Mais lorsque nous avons l'assurance de la vie éternelle, lorsque Jésus est dans nous, peu importe ce qui va se passer, tous, au pire, on quitte la terre plus vite et puis on va au ciel et c'est mieux là-bas. Mais on aime bien quand même rester là. Donc, accepter Jésus dans notre vie. Deuxième volet qui est important dans la volonté de Dieu, c'est faire partie de la famille de Dieu. Faire partie de la famille de Dieu. Est-ce que vous savez qui est la famille de Dieu? Qui sont ceux qui font partie de la famille de Dieu? Justement, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Eux, c'est ces gens-là, ces personnes-là, qui font partie de la famille de Dieu. Et le père de cette famille, c'est Dieu Tout-Puissant. Et le médiateur entre Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et par Jésus, nous avons l'accès vers notre Père. Et puis, à tout moment, on peut lui dire, « Père, mon papa, j'ai besoin de toi. » Allô? Donc, vous voyez, faire partie de la famille de Dieu ne veut pas dire faire partie d'une dénomination, d'une religion, d'une secte. Mais faire partie de la famille de Dieu, je répète, c'est accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et je suis frère d'un Américain, d'un Africain, d'un Ghanéen, d'Australien. Et les Australiens, ils ont des frères et des sœurs en France. Vous comprenez, on a une famille, ce sont des frères et sœurs qui se retrouvent. Et le Père, c'est le même pour tout le monde, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. On va applaudir le nom de Jésus pour sa grâce, fort et puissamment. Oui, Jésus. Ensuite, qu'est-ce qui fait encore de la volonté de Dieu? C'est recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. On reçoit Jésus, notre esprit est changé, on a l'esprit de Christ, bien sûr. Mais ça, c'est juste le commencement. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Dieu veut nous donner la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous accorde la puissance du Saint-Esprit surnaturelle. Les surnaturels, que nous pouvons vivre tout à fait naturellement. Allô? Les surnaturels, nous pouvons vivre tout à fait naturellement si Jésus est vraiment dans nos vies. Tout simplement. Donc, ça fait partie de la volonté de Dieu. J'avance, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois, tout à l'heure, quelqu'un disait, Fred disait pendant la louange, voulait nous encourager, puis disait l'onction. Et puis j'ai tout de suite pensé à ceux qui sont là pour la première fois, et puis je me suis dit, pour vous, l'onction, ça ne veut rien dire. Mais pour nous, c'est très profond. Mais l'onction dérive d'un mot, l'huile. Et l'huile symbolise quoi? La présence de Dieu, enfin le Saint-Esprit. Si je vous parle de Saint-Esprit, je peux dire le Saint-Esprit en action, même je peux dire Dieu en action. Quand il y a quelque chose qui se passe, Dieu fait les choses par son esprit, par sa puissance, et on peut dire Dieu est en action, comme un volcan qui est maintenant en Islande, il se réveille, vous comprenez? Et on va dire il est en action. En éruption, il va agir. Et quand il y a quelque chose qui se passe, quand tu as donné ta vie à Jésus, au moment où tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu était en action. Dieu a touché ton raisonnement. Dieu a touché ton cœur, voilà, ton système, ta façon de voir les choses. Et il t'a transformé, il t'a dit, je t'aime. Et voici, tu acceptes maintenant la vie parce que je t'aime, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu en action, quelque chose de surnaturel. Parce que vous savez, on a des montagnes, des forteresses au niveau de notre raisonnement. On est formaté, on est déformaté, on est déformé et par toutes sortes de choses, d'enseignements, etc. Voilà, alors tout ça, il faut détruire. Détruire. Et c'est le Saint-Esprit qui prend la possession. Dans la possession de nous. Brigitte m'a dit il y a deux jours, on va tous les deux, trois jours, et on voit l'évolution, et puis beaucoup de monde nous téléphone pour savoir ce qui se passe avec elle. Et à un moment, elle a toute sa tête. Et à un moment, elle nous dit tu vois, Antoine, vous voyez, Christiane, aujourd'hui, je ne maîtrise rien. Elle nous disait, qu'est-ce que j'aimerais être en barbecue? Parce qu'elle aimait ça. Je ne maîtrise pas mon déplacement. Je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que j'aimerais bien me lever et puis aller aux toilettes? Je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que j'aimerais bien être dans certains endroits que j'aimais, rencontrer des amis. Elle m'a dit, je ne maîtrise rien. Vous voyez, il y a des moments comme ça, et puis là, on doit vraiment se servir de la compassion. La compassion. La compassion. C'est bien que vous priez, c'est bien que très loin on prie, il n'y a pas qu'elle. Mais voilà, nous avons quelque chose à faire, mais comme Daniel Hermano disait, on est devant des situations et on ne maîtrise pas, mais Dieu maîtrise. Mais Dieu est au-dessus de la médecine. Mais Dieu peut se servir de moi. Dieu peut se servir d'un enfant, d'une femme, d'un homme, d'un jeune homme, d'un ado. Dieu peut se servir de toi d'une façon extraordinaire pour faire quoi? Le surnaturel. Nous sommes appelés pour ça. Recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc les actes des apôtres, premier chapitre, et puis le verset 8, par là, même avant déjà 5, 6, 7, 8, nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Allez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là, attendez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins dans le monde entier. D'accord? Parce que vous allez pouvoir faire les surnaturels. Et aujourd'hui, nous sommes devant tous ces défis. Seigneur, aide-nous. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction, accorde-nous ta puissance pour que nous soyons efficace. Amen. Parce que prêcher, on sait prêcher, parler. Oh là là, quelquefois, j'écoute des prédications. Quand je dis prédication, c'est des discours au téléphone. On se parle comme ça, tout le monde sait parler. Mais quand tu vas te retrouver devant quelqu'un qui est condamné à la mort, déjà par la médecine, ah ben ça change tout. Hein. Allô ? Tes paroles, tout ce qu'il faut, c'est Dieu. Amen. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible, Dieu est là. Donc voilà, recevoir le Saint-Esprit, ça fait partie de la volonté de Dieu, d'accord ? C'est un domaine, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le baptême c'est plonger, c'est nager, d'accord ? Le baptême du Saint-Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit en moi, avoir le Saint-Esprit sur moi et avoir le Saint-Esprit avec moi. Ça va ? Voilà. Et ça, c'est la porte ouverte vers des choses surnaturelles. Pour combattre, Dieu nous donne, veut nous équiper de cette puissance pour combattre les attaques diaboliques. Les attaques diaboliques. Vous savez, quelquefois, les attaques diaboliques commencent par des disputes tout simplement chez des chrétiens. Je me souviens, déjà un moment, avec Christiane, nous sommes allés chez quelqu'un. Et j'arrive donc devant la maison, et je sonne, ça ne bouge pas. Je sonne, ça n'ouvre pas. Et puis j'ai pensé à la parole qui dit « Frappez et on vous ouvrira ». Alors j'ai commencé à frapper. Je savais que les gens étaient là. J'étais convaincu. Ça n'ouvre pas. D'accord, on va partir, mais tout à coup, j'entends les bruits. Et c'était des disputes terribles. On s'insultait, on disait des gros mots, etc., etc. Ce sont des gens qui sont venus quelquefois à l'église. On voulait les aider. Et puis après, on parle de la séparation, on parle de divorce, on prononce des paroles violentes. Satan fait tout pour détruire les couples. On est d'accord ? À un moment, il détruit le couple, après, il y a les dégâts autour, il y a les enfants, etc. etc. Il y a les combats au niveau de la foi. Satan fait tout pour semer la panique dans notre esprit. Et il sème le doute. Tu penses, tu crois que, mais c'est juste une histoire, etc. Le Satan fait tout pour nous déstabiliser, pour semer dans notre esprit le doute, découragement, etc. La liste est longue. Mais nous, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour détruire toutes ces oppositions, toutes ces attaques. Quand on a su, je vous ai déjà dit, les résultats pour Christiane, alors la première chose, les flèches venaient dans ma tête. Vous comprenez, les flèches. Ça ne venait pas de moi. Hein, mais on en voit des pensées comme ça. Ah ben, tu vois, maintenant, tu vas pouvoir prêcher le salut, mais tu ne pourras pas prêcher la guérison. Comprenez ? Vous avez compris ? Et puis, j'ai réfléchi, j'ai prié, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que ces flèches m'atteignent. Je les bloque là. Et ensuite, je les détruis et je les envoie dans la géhenne. Amen ? Parce que si j'avais accepté cette pensée, ah ben, je suis perdu, déstabilisé. Mais si ce qui s'est passé, c'est que ça me donne encore plus de force à me battre, plus de force à dire à vous les jeunes, battez-vous, priez, gênez, consacrez-vous et vous allez voir des miracles. Parce que c'est biblique ce que Dieu veut faire dans son Église. Donc, Voilà, on a parlé aussi de la compassion, exercer la compassion. Et là, je vais vous montrer, voilà, que nous avons vraiment besoin de Dieu. Luc, chapitre 7, le verset 20, 21, 22, et puis c'est là que vous allez voir, la présence de Jésus produit vraiment les surnaturels. Fred, t'es prêt? Merci.
Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
Très bien, merci. C'est fort, hein, c'est puissant. Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu préparer le chemin pour Jésus. C'est le dernier prophète avant Jésus, le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est lui qui préfigurait Jésus-Christ. C'est lui à qui on a coupé quoi ? La tête, qui a payé cher. Il n'y avait pas de choix. Allô ? Il avait les disciples avec lui aussi. Mais il savait que celui qui venait derrière lui, après lui, était plus puissant. D'accord ? Le plus puissant, c'était Jésus, le Fils de Dieu, lui-même qui est descendu du ciel. Et puis les disciples de Jean, enfin là, il y avait une discussion, une conférence. Et puis on voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment c'est Jésus qui devait venir ? Est-ce que c'est lui le Messie ? Est-ce que c'est vraiment lui, Jésus, le Fils de Dieu ? Et puis les disciples sont venus pour lui dire, tu sais, Jean nous a envoyé. Et puis voilà, on te pose la question, est-ce que c'est vraiment toi ? Quelle était la réponse ? Comprenez, la parole, blablabla, ce n'est pas toujours ça qui a la valeur. Hein. Et là, c'est quoi ? Il y avait des résultats. Il y avait Dieu en action. Il y a quelque chose qui se passait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez rapporter à Jean. Voilà, donnez-lui la réponse. La réponse, c'est ça. C'est que vous avez vu, voir quelque chose. C'est important, hein ? Ce n'est pas parce qu'on nous a dit, mais quelque chose que nous voyons. Vous avez vu et entendu. D'accord ? Ils sont venus voir les choses qui se passaient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. C'est fort, hein ? Le boiteux marche. Les lépreux, donc c'était une maladie vraiment difficile à cette époque-là, répandue. Les gens ont été isolés, rejetés des autres. Les lépreux sont purifiés, la lèpre est purifiée. Il y a quelque chose qui se passe ou non ? Les sourds entendent, les morts ressuscitent. Oh là là, même les morts ressuscitent. Allô, Mathieu, c'est pour toi. Hein, des gars solides comme ça. Les morts ressuscitent. C'est pas fini. Il n'y a pas que le miracle du corps. C'est important. Mais le plus important, je pense, tout est important de toute manière, mais ce qui est plus important, c'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pauvres, c'est tous ceux qui n'ont pas Jésus. La bonne nouvelle, la parole du salut est annoncée. Il y a des miracles qui se passent. La parole de Dieu est annoncée. Pourquoi vous êtes là ce matin ? Parce que, je vous ai déjà dit, quelqu'un vous a invité, quelqu'un vous a témoigné de Dieu. et vous avez accepté Jésus. Ah ben nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyons prophétiques pour les autres. Il y a des dizaines de milliers de personnes autour de nous qui ne connaissent pas Jésus. Vous êtes conscients ou non? Allô? L'avenir des dizaines de milliers, des millions de personnes dépend de ce que toi et moi nous faisons. Vous avez compris? Alors regardez, quelle belle mission finalement, parce que nous sommes sauvés, vous avez accepté Jésus, quelle belle mission. Et c'est pour ça, si on va à Arras au mois de septembre, c'est pour guérir quelques-uns, c'est pour sauver quelques-uns, amen, et pourquoi pas ressusciter quelqu'un, moi je crois toujours, allô, c'est pour l'Église, hein. Et c'est la volonté de Dieu de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir faire des grandes choses. Alors j'observais ici, il y avait des jeunes filles qui mettaient aux peintures, vous savez, ces joints-là, c'est tellement minutieux, hein, c'est ça. Hein. Beaucoup de patience. Et je me suis dit, c'est beau ça, de voir des jeunes, plusieurs jeunes là qui mettaient la peinture là. Voilà, et puis en plus avec le t-shirt route ensemble, elle venait de là-bas et puis elle donnait du temps pour mettre la peinture là. Et j'ai dit, Seigneur, tout ça, je vois ça parce que c'est toi qui les as sauvés. Parce qu'il y a un miracle dans leur vie. Parce que c'est toi qui es mort sous la croix de Golgotha. Elles ont compris. Et elles veulent servir. Elles ne savent pas monter dimanche comme Antoine pour prêcher là, mais elles savent mettre la peinture. Alors j'ai dit, vous avez déjà fait plus que moi. Allô? C'est beau ça. C'est formidable. Je vais vous raconter un petit témoignage. Après, on va prier. En ce qui concerne les finances, vous savez, dans une église, il y a trois principes pour que l'église avance. Il faut une vision, comme je vous ai dit, il faut savoir où vous allez. Une vision. Et là, ce mur-là, on mettra la vision, c'est aux routes. Ensuite, il faut des hommes et des femmes, on est d'accord? Des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, c'est pas. Voilà. Des hommes et des femmes. Et troisièmement, il faut quoi? Il faut les finances. Si on a fait les peintures, il y avait les finances. Et encore, c'est l'assurance qui nous a remboursé le fuite. C'est l'assurance qui couvre tout. Alors, c'est juste pour vous dire ce témoignage-là. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, nous, financièrement, on serre la ceinture, on gratte partout, il n'y a plus un centime nulle part. Bon, un centime, ça se trouve toujours, mais bon. Mais j'ai quand même donné ma dîme. J'ai quand même donné ma dîme. Il faut le faire, hein. Et voilà juste un petit instant de réflexion. Puis voilà, j'ai connecté avec la présence de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quand Ambroise m'a dit, si j'ai 600 euros à l'époque, j'ai mes papiers, sur l'échange, je lui ai dit, je trouve 600 euros. On lui a prêté 600 euros. Mais les 600 euros produisent un salaire pour sa famille et aussi bénir l'Église. On est tous gagnants ou non? Et là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il me parle comme ça? Pourtant, j'ai provoqué cette conversation. Et puis le Seigneur me parle, me dit, dis-lui que son chèque ne sera pas encaissé. J'ai dit, s'il n'est pas encore encaissé, on arrête là. Une une décision assez délicate, non? Qu'est-ce que vous pensez? Et la personne me dit, non, non, c'est ma dîme. Mais moi, le Seigneur m'a vraiment dit, vous n'allez pas encaisser le chèque. Ça représentait, je ne sais pas si c'est 300 ou 350 euros. S'il n'y a rien, et puis 350 euros reste, ben, ça fait du bien, non? On peut manger, non? Allô? Ça ne se trouve pas comme ça facilement. Et la personne, elle a accepté. J'ai dit, tu as donné à l'église, mais nous, on ne va pas encaisser. Puis après, j'ai même dit, vous déchirez le chèque. Il n'y a pas de retour là. C'est, avec Dieu, on ne joue pas. Et puis, un petit peu plus tard, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Je donne 500 euros pour les travaux. Je récupère ces 350 euros ou non? J'ai plus, hein? Pas pour moi, pour l'Église. Je suis un homme d'affaires spirituellement parlant aussi. On a besoin des finances pour que l'Église, pour que nous puissions payer le barbecue, pour que nous puissions faire les travaux, pour que nous puissions payer les Nouveaux Testaments. Et deuxième affaire, je suis allé acheter donc le matériel pour les chaînons. Voilà, donc on fait les calculs et ça faisait 1 600 euros et quelques. Bon, j'arrondis à 1 700 et je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur, 1 700 euros actuellement, c'est juste. Mais les chaînons, c'est tellement important, il y a des fuites, ça vous le savez. Hein. On a escanté même la moquette, on nous a remboursé de l'argent parce que la moquette a été abîmée. Et puis j'y vais. J'ai commande le matériel pour 1 700 euros. Et puis voilà, comme c'était un moucron, donc je devais aller chercher liquide. Voilà, et puis je suis allé chercher liquide. Mais on m'a dit, vous ne pouvez pas avoir plus que 1 500. Bon, d'accord, j'ai pris 1 500. Et j'ai demandé si je peux payer 1 500 et puis reste avec la carte bleue, parce que nous avons la carte bleue. C'est tout ça l'église, hein. Et j'arrive là, et puis Christian, elle était là. On arrive à la caisse, et puis on nous compte, et on nous dit 1 200 euros. Pourtant, c'était 1 700 au départ. Et j'ai dit, attendez, avec les cartouches, là, c'est de la colle, avec les cartouches. Oui, 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 oui. Ils font les calculs encore une fois. C'est 1 200. Et Christiane, elle dit à haute voix, comme ça, monsieur, ah bah tant mieux pour nous. C'est vrai. Hein? On discute. 1 200 euros. Ah bah j'ai gagné combien? Combien? 500. Là-bas, j'ai gagné 1150, ça fait 650. J'ai donné 300 et j'ai récupéré combien? Combien? 500 plus 150, 650. Allô? Allô? Ah ben, avec Dieu, moi, j'ai jamais marché avec Dieu A plus A, c'est 2. Là, on n'avance pas. Le comptable, c'est A plus 2 égale 4. Et c'est ce que nous faisons dans les calculs et dans la trésorerie. Mais moi, je le sais que si j'investis 1 euro, 1 euro devient comment? Élastique. 2, 3, 7, quelquefois 10. Mais à condition que nous payons le prix, à condition que nous croyons, à condition qu'il y a le sacrifice. Et puis, à un moment, voilà, ça paye. Quand j'étais jeune, tout jeune, on était jeune, et puis on allait assister en pas mal d'émissions avec Daniel Hermonon, parce qu'il organisait beaucoup de choses, d'évangélisation sous chapiteau, etc. Et quelquefois, il a sorti 10 francs à l'époque, hein, de sa poche, et il dit, nous avons besoin d'un chapiteau. Et chapiteau coûte 3000 francs. Et à la fin de la réunion, il avait 3 000 francs et il a acheté le chapiteau. Et j'ai dit, mais nous, on était frustrés. Et dit, nous, c'est toujours A plus A, c'est 2. Nous, c'est 10 plus 10. Nous, quand on voulait acheter voilà, quelque chose pour l'église, c'est quand ça coûtait 17 euros, bah, c'est, enfin, francs, c'était 17. Et lui, il sort 10 francs. Et à la fin du culte, il paye un chapiteau qui coûte 3 000. Alors, nous, on était frustrés. Et puis, les années sont passées. On a investi, on a donné, on a payé le prix. Et après, on commençait à voir le fruit. Seigneur nous donne nos enfants. Nos enfants prennent les baptêmes. Ah, les enfants se marient, ils ramènent des chrétiens, chrétiens ou chrétiennes. À la maison, il y a la joie. On a déjà beaucoup gagné beaucoup. Pour les bâtiments, la même chose. Ben, je vous donne un témoignage. Allô? Alors nous avons affaire avec un Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit, pendant le juillet-août, nous préparons déjà le mois de septembre. C'est vrai, nous, pour nous, 3-4 septembre, c'est l'opération. Mais je crois que Dieu est avec nous. Amen. Et puis je crois qu'au niveau de l'Église, c'est la reprise en force. On ne va pas perdre le temps. On ne va pas perdre le temps, on ne va pas se disputer. Il faut avancer. Il faut suivre la voiture qui roule. Vous avez compris? Il faut suivre Jésus. Il y a des belles choses qui vont se passer. Au niveau de la présence de Dieu, au niveau des miracles, au niveau des surnaturels, au niveau de la croissance, au niveau de l'implantation des nouvelles églises. Parce que chaque église devient un outil pour gagner les âmes. Alléluia. Alors, Monsieur Jacques, est-ce que vous pouvez venir ici? Est-ce que vous acceptez que je puisse prier pour vous? Monsieur Jacques, oui? Est-ce que vous pouvez venir ici? Ah ben, vous venez avec ça. Alors, je vous demande de mettre la foi en action. Le surnaturel, il faut quelque chose qui se passe. Allô?